Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
À l'écoute de RDWA sur le 107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr, dans le cadre du Festival Est-Ouest avec cette année le Liban en invité. C'est parti pour une série d'interviews, peut-être que vous en avez déjà d'ailleurs entendu sur cette antenne, c'en est un autre, en compagnie de Isabelle Morand. Bonjour.
Bonjour.
Première question toute bête, que faites-vous sur ce Festival Est-Ouest, le Liban en invité ?
Ah bah je me le demande. Non, je me le demande pas du tout.
Bah écoutez, parce que vous avez pas du tout une tête de Libanaise.
J'ai pas une tête de Libanaise, je n'ai pas un nom libanais, pas du tout. Bah ce qui s'est passé, c'est qu'en fait j'avais une petite expo photo pendant les journées du Liban qui se sont tenues ce printemps à Paris. Et c'est à cette occasion que j'ai rencontré Isabelle Catois, qui s'occupe donc du festival. Et comme j'exposais des photos du Liban, elle m'a demandé si ça m'intéressait de venir participer au festival. Et ce que j'ai trouvé évidemment très intéressant, parce que j'avais fait jusqu'à présent que des expositions vers Paris, autour de Paris. Et je me suis dit que participer à un festival dont le Liban était l'invité, et comme c'est mon pays de cœur, on va dire, c'était pour moi, c'était comme un cadeau.
Pourquoi ce pays ?
Alors, c'est à la fois simple et compliqué. C'est un pays que j'adore, qui m'intéresse depuis des années, parce que j'ai fait aussi de la radio et j'ai fait notamment de la radio pendant la guerre du Liban. Et donc je présentais des éditions nocturnes sur un des réseaux de Radio France. Et
Lequel ?
France Culture, France ouais. Musique, les synthèses d'actualité nocturnes. Et j'étais toujours en train de lancer des reportages, des interviews du correspondant sur place. Et malgré le fait que ça soit la guerre, malgré le fait que les papiers de Alain Ménargue étaient toujours un peu catastrophiques, il faut le dire quand même, et absolument déchirants, c'est un pays qui a commencé à m'intéresser. Après, j'ai lu pas mal de choses sur le Liban, et puis c'était toujours dans un coin de ma tête en me disant que c'était vraiment un pays où je rêverais d'aller. Alors, j'ai pas pu y aller pendant des années. Et puis le jour où j'ai mis les pieds à Beyrouth, c'est un peu comme si j'étais rentrée dans un deuxième chez moi.
C'est quand même étonnant, une attirance a priori sur des papiers dramatiques de situations de guerre donne envie comme ça d'aller vers ce pays.
Oui, parce qu'il y a eu ça, mais derrière il y a eu des lectures, il y a eu des films, il y a eu des tas de choses, il y a eu une plongée dans l'histoire du pays, que je ne maîtrise pas complètement, ni l'histoire ni le pays bien sûr, mais ça a renforcé en fait mon envie d'y aller un jour.
Oui, plongée que vous avez faite.
Oui, je l'ai fait. J'y ai même emmené mon fils de 19 ans qui a vécu là-bas. Et moi, j'ai fait les allers-retours pendant un petit bout de temps et j'ai fait plusieurs voyages sur place. Et je suis même ravie parce que maintenant, je suis quasi propriétaire d'un terrain aussi au Liban. Un petit bout de terrain avec que des cailloux qui est en moyenne montagne. Et je crois que c'est un endroit où, enfin, quand je l'ai vu, je suis tombée amoureuse de cet endroit, encore plus que du reste du pays. Et puis, je me suis dit, c'est là où j'ai envie de faire construire une deuxième maison. Donc j'ai un passeport, j'ai une nationalité hein, qui est la nationalité française, mais j'ai une autre nationalité qui est celle du cœur indubitablement.
Après ces émissions de radio en tout cas, est-ce que vous arrivez à trouver qu'est-ce qui vous a attiré comme ça, donné envie d'aller regarder des films justement, d'aller suivre un petit peu ce qui se passe là-bas ?
Je sais
pas,
je pense
pas
que
expliqué,
non, c'est pas expliqué, c'est ou alors c'est trop vieux pour l'être et je m'en souviens plus parce que bon, je suis plus toute jeune, mais non, c'est une attirance qui est née, qui s'est développée et qui a trouvé sa concrétisation dans un billet d'avion.
Bon, bah, je suis aussi mauvais psy, finalement, je n'ai pas réussi à trouver la raison. Isabelle Morand, un petit mot encore de votre parcours après la radio ou avant quand même avant.
Moi, je suis avant tout journaliste. Voilà. Je suis journaliste de vocation. C'est vraiment ma vocation depuis que je suis toute petite. Et donc, j'ai commencé par la radio. J'ai fait des radios libres. J'ai été dans le petit labo de France Info dans une radio qui était à Versailles. Et puis après, je suis partie à Tahiti. Voilà. Après, je suis partie à Nouméa, où j'ai vécu quelques années, où je travaillais dans un quotidien, où je faisais des papiers cinéma, télé, donc rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Après, j'ai été quelques années reporter, tourisme. Puis après, je suis passée à Téléstar, voilà, mais je m'occupais de tout ce qui était hors télé. Et après, j'ai pris la rédaction en chef de L'Ami des Jardins, où je suis restée 10 ans.
Mais que des trucs qui n'ont rien à voir, quoi. Pour rien finir au Liban.
Alors, je finis pas au Liban parce que c'est une région où je vais assez régulièrement. Je vais également en Irak parce que je travaille avec une association humanitaire qui s'appelle Les Écrans de la Paix. Donc, je vais régulièrement dans ces endroits, mais disons que, 9 mois sur 12, je suis plutôt la tête dans les fleurs. C'est mon cœur de métier, c'est ce que j'aime, et je crois que c'est bizarre comme équilibre, je suis d'accord. 9 mois dans la tête dans les fleurs et 3 mois sur des terrains qui ne sont pas faciles. Mais je pense que l'un m'apporte, ça m'apporte aussi du recul dans les deux domaines, et puis ça m'apporte beaucoup de recul dans la vie en général.
Donc la tête dans les fleurs, c'est dans le cadre de L'Ami des Jardins, c'est quoi?
Alors
c'est
donc plus maintenant. Donc j'ai été rédactrice en chef de ce magazine pendant 10 ans, et maintenant j'ai créé mon propre média jardin. Donc je vais faire un petit peu de pub, j'ai le droit.
Mais tout à fait, j'allais
demander. Qui s'appelle Hortus Focus, qui est né comme un blog, il est né blog, et il est en train de devenir un magazine en ligne. Et voilà, on a une petite équipe de 6, on tourne, on monte, on photographie, on écrit, on sillonne un peu la France. Le but étant de transmettre, vraiment, de partager tout ce qui est savoir-faire, faire savoir. Tout ça, c'est très important pour des générations qui ont eu une coupure de transmission de faire savoir. Donc voilà, c'est de l'information libre et gratuite. Et on est en train de développer une partie commerciale, parce qu'il faut bien manger. Et que le jardin, moi je veux bien manger de la bourrache toute l'année, mais ça va pas forcément me nourrir.
Et alors, c'est quoi l'équilibre avec les milieux hostiles pendant 3 autres mois?
Je crois que j'ai besoin de me plonger dans la réalité des gens. Le jardin, c'en est une réalité. C'est même plein de réalités. C'est vraiment, on touche la terre, on est dedans. Ça a un côté extrêmement pratique et réaliste. Mais moi, j'ai besoin d'aller voir aussi comment on vit ailleurs. Et c'est vrai que mes photos, elles ne sont pas toutes gays. On est bien d'accord. Mais je suis allée traîner dans des endroits pas franchement gays. Et je crois qu'il faut témoigner, quoi. Il faut vraiment témoigner de la détresse de toutes ces personnes, que ça soit au Liban, en Syrie, quand on peut encore y aller, en Irak, en Jordanie, chez les réfugiés. Je pense qu'ils nous apprennent beaucoup sur nous-mêmes. En les regardant vivre, d'abord on apprend à relativiser énormément de choses dans ce qui vous arrive. Moi je pense que j'ai un peu moins d'énervement qu'avant, par rapport aux autres gens. Par rapport à certaines situations, j'en ai beaucoup plus. Enfin moi ça me fait du bien d'aller vers les autres, ça me fait du bien de montrer leur réalité, ça fait du bien de parler avec ces gens, ça fait du bien de toucher du doigt vraiment ce qui est leur vie, ce qui est leur problème et ce qui par moment nous échappe. Mais alors complètement. L'information va vite, les nouvelles vont vite. Une mauvaise nouvelle, ça chasse l'autre, etc. Et moi, ce que j'aime bien, c'est prendre du temps pour vivre un peu avec les gens, pour parler de leur quotidien. Alors des fois, c'est difficile, parce que moi, j'ai un arabe un peu défaillant. C'est pas terrible. Mais on arrive toujours à trouver quelqu'un qui traduit. On arrive toujours à se parler. Et si on se parle pas, il y a des embrassades, il y a des prises de corps à corps comme ça, avec des femmes, des enfants, pas avec les hommes, bien sûr, mais qui valent plus que des mots.
Comment on est perçu, comment vous êtes perçu justement avec ce passeport étranger là-bas au Liban ou dans ces pays qui quand même, peut-être que c'est mon regard occidental, sont dans des situations aujourd'hui dramatiques sanitairement au niveau des guerres, etc. De notre fait quand même, c'est bien nous qui avons foutu la merde là-bas, des armes.
Quand je suis sur le terrain, quand je suis avec les gens, c'est pas quelque chose dont on discute, parce que je peux avoir des discussions politiques, géopolitiques à mon petit niveau avec des gens, mais quand je vais dans les camps de réfugiés, quand je vais dans les quartiers très très pauvres de Tripoli, les gens sont bien loin de tout ça. Les gens, ce qu'ils cherchent, c'est à bouffer, et pour certains quartiers, quand j'étais il y a 2 ans, à pas se prendre une balle dans la peau. Alors si vous voulez, ils ont un quotidien qui est très très difficile, et je crois qu'il faut le vivre un petit peu pour le comprendre. C'est pas avec ces gens-là que je parle de de politique. Et même en Irak, moi, j'ai jamais eu de problème. Voilà, j'arrive, je n'ai pas de... Quand je voyage, je ne mets pas mon passeport en évidence. Je suis une citoyenne lambda qui pourrait venir de n'importe où. Et ce qui m'intéresse, c'est le contact humain. D'ailleurs, quand je fais... Enfin, moi, j'essaye, dans mes photos, de choper des regards à la fin d'une conversation, de choper... de vraiment d'attraper en un regard ce que la personne a pu me dire en 5 minutes, 1 heure, 3 jours ensemble, etc. Pour moi, c'est le plus important. Et c'est ce que va faire passer l'image, ce que va faire passer le regard. Donc, c'est vrai que on va dire 99% de mes portraits, parce que je fais beaucoup de portraits, je suis très nulle en paysage. Enfin, ouais, je suis en fer, hein, mais bon, c'est pas GGN. Et vraiment, ce que j'aime, c'est photographier les gens et les photographier dans ce qu'ils sont à ce moment de la séparation ou de la discussion. Je photographie jamais quelqu'un quand j'arrive. C'est, voilà, je m'assieds, j'ai passé des heures par terre en Algérie face à une dame qui me faisait des grands sourires, à qui je faisais des grands sourires. Je ne parle pas algérien, c'était très compliqué. Et en fait, de sourire en sourire, je crois qu'elle m'a offert le plus beau des sourires dans la plus grande des misères. Ça moi, c'est pour ça que je vais traîner un petit peu partout. Je vais essayer aussi de montrer que dans les situations les plus catastrophiques, les plus noires, on peut encore avoir un sourire, on peut encore se parler. On peut avoir ces petits moments fugaces où on oublie tout ce qu'il y a autour et qu'on est juste bien entre êtres humains.
Comment vous vous présentez à ces gens alors, Isabelle Morand? Parce que c'est bizarre de venir attendre un sourire, guetter un sourire, provoquer un sourire, on imagine quand même avec un appareil photo.
Ouais, mais j'ai un grand sourire et j'ai un petit appareil photo.
Les gens ne voient pas l'appareil, ils sont pris au piège.
Si, parce que non, je ne cache jamais l'appareil, je ne vole jamais une photo. C'est juste que je pense qu'on peut communiquer de plein de façons. Et puis, si moi, je vois que la personne, elle est un peu réticente ou qu'elle ne veut pas, je ne force jamais personne. Donc, on parle, on discute, on parle avec les mains, on fait ce qu'on veut. Au bout d'un moment, je montre l'appareil, je montre que je vais faire des photos. Si on me dit en arabe, là, je ne fais pas. Si on me dit oui, je fais. Et je ne suis pas pour forcer les gens. Et de toute façon, la rencontre sera aussi géniale, même si elle n'est pas sur mon écran. Hein. Ce n'est pas grave, ça.
J'ai entendu donc une recherche de mettre en avant le beau, parfois dans des situations hyper misérables. Mais comment vous choisissez vos sujets?
Eh bien, j'allais dire que je ne les choisis pas. En fait, je sais où je vais. Je sais où je vais. Là, par exemple, l'année dernière, je voulais absolument retourner au Liban Nord, à Tripoli. Donc Tripoli au Liban Nord, hein, pas en Libye. Parce que j'y étais allée en 2014 à un moment où il y avait deux quartiers, Bab el Teban et Jabal Mohsen, qui ont en fait récupéré les conséquences du drame syrien, c'est-à-dire qu'il y a un quartier qui est alaouite, donc pro-Bachar, il y a un quartier en dessous qui est sunnite, tout ça c'est séparé par un fleuve, qui est plutôt une rivière de déchets qu'autre chose, c'est un peu dégoûtant. Et donc il y a un quartier qui est un peu plus haut que l'autre, comme ça, et il y a eu pendant des mois des snipes, des tirs de mortier, des tas de trucs, il y a eu beaucoup de morts, y compris des enfants, parce qu'un sniper, il s'en fiche hein, du sexe de quelqu'un, de la taille de quelqu'un, de l'âge de quelqu'un, il snipe. Donc j'y suis allée à ce moment où il y avait une accalmie, voilà, j'ai pas pu y aller un jour, on m'a dit là c'est pas le moment, j'ai dit bon ok, et le téléphone arabe faisant que le lendemain c'était possible, je suis donc allée dans un des deux quartiers, je n'ai pas pu aller dans l'autre parce que c'était un petit peu chaud. Donc je suis allée à celui d'en bas. Et là, j'ai rencontré des gens. D'abord, j'ai été formidablement accueillie. Depuis le moment où j'ai mis le pied dans les souks qui étaient bien à moitié fermés, jusqu'au marché de Bab el Teban, jusqu'au fin fond de ce quartier, j'ai été reçue partout avec des sourires, parce que la vie, elle est là, avec des sourires de partout, avec des cafés offerts, avec des jus de fruits offerts. Je me suis dit, je ne vais jamais y survivre. Là, moi, à boire et manger dans la rue avec mon estomac d'occidental, ça va être difficile. Tout s'est très bien passé. Et j'ai fait vraiment des rencontres. Je suis rentrée dans des échoppes troglodytes. J'ai fait notamment une photo qui a eu un prix de la diaspora libanaise. Je suis rentrée dans un salon de coiffure troglodyte avec un énorme nounours rose sur un fauteuil avec marqué « Love » dessus. Là, je me suis dit, c'est pas possible, quoi. Tout est noir, tout est sombre. On est dans un univers enfermé, quasi en prison. Et puis, il y a cette espèce de peluche rose, pouf, qui déborde d'amour. Et je suis pas bisounours, moi, il en faut, mais là, j'étais un petit peu, quand même, ça m'a un peu interloqué. Et puis, j'ai dit au coiffeur, je peux faire la photo. Donc, je voulais pas lui le prendre en photo. C'était ce bon sang de nounours avec toute l'ambiance qu'il y avait avec. Et ça reste, voilà, ça fait partie des souvenirs comme ça. Je suis aussi allée dans un four, un très vieux four à Kaake. C'est des petits pains qu'on mange après sur le marché. Un truc qui a 200, 300 ans. Donc, pareil, tout noir, mais noir de tout, quoi. Il n'y a pas de fenêtre, c'est noir, les murs sont noirs. Et là, il y avait un monsieur avec une barbe comme ça. Je lui ai dit, je peux vous prendre en photo. Il m'a dit, non, vous prenez le pain parce que vous allez rentrer chez vous. Et moi, avec ma barbe, on va dire que je suis un islamiste. J'ai dit, OK. J'ai dit, bah, moi, je ne le pense pas. Mais si vous, ça vous fait peur, que vous avez peur de transporter un message comme ça, on ne le fait pas. Et donc, j'ai photographié le four et la photo est plutôt sympa parce qu'on n'a qu'une envie, à mon avis, c'est de croquer là-dedans. Donc, j'étais allée dans ce quartier-là. Et puis, l'année dernière, je me suis arrangée pour y retourner. Mais cette fois-ci, alors, l'armée était intervenue entre les deux quartiers. Il n'y avait plus de snipe, il n'y avait, plus rien. Mais c'est vrai que ça fait bizarre d'aller dans une ville où vous avez des militaires à chaque coin de rue, vraiment chaque coin de rue. C'est un quartier, hein, dans Tripoli. Vous avez des chars, vous avez des véhicules blindés, vous avez pour éviter que la moindre étincelle réembrase le truc. Et donc là, j'y suis allée avec quelques... avec qui j'ai distribué des colis alimentaires parce qu'il faut quand même pouvoir rentrer dans les quartiers. Donc c'était, on a donné des colis et c'était le prétexte pour pouvoir rentrer dans les familles. Et là j'ai pris une grosse claque parce que la première année j'étais pas allée, j'étais dans une ambiance assez joyeuse de marché, de gens qui devisaient, de gens qui étaient dehors. Et là c'est drôle entre guillemets, les militaires étaient partout. Et on est rentré chez des gens, mais dans des environnements, je sais pas, j'en ai rarement vu des comme ça. C'était très très poignant parce qu'en fait, les colis étaient distribués à des familles qui avaient perdu un membre, deux membres, dans souvent les combats entre ce quartier alaouit et ce quartier sunnite. Donc on s'est retrouvé face à des cas de misère et de détresse humaine, notamment une femme. Là, il n'y a pas de sourire hein, sur la photo, c'est juste pas possible. Moi, je l'appelle la femme à l'ail parce que on est entré. Cette femme, elle a perdu son mari. Alors pas dans un des tirs, mais un assassinat horrible dans une rue parce qu'on se vole l'électricité, parce qu'on n'a pas d'argent, parce que tout ça. Et donc elle a perdu son mari qui a été assassiné par des gens du quartier. Et elle vit dans une espèce de longue pièce quasi insalubre. Hein. C'est pas très sain. Avec un fils qui est en train de virer très mal. Donc dans la drogue, je pense que si un jour on le retrouve quelque part un peu salafisé, on va dire, ça sera pas très étonnant. Ils sont abandonnés tous. Et deux filles où on se dit, bon, bah, c'est pourvu qu'elle termine pas dans la rue, quoi, si personne s'en occupe. Et cette femme, pour survivre, elle épluchait de l'ail toute la journée, avec une main handicapée. Donc elle prenait, je vous laisse imaginer, une gousse d'ail de sa main valide, qu'elle mettait dans sa main invalide. Elle approchait ensuite la gousse d'ail de sa bouche. Hop, elle enlevait, clac, comme ça, le bout dur de l'ail. Et ensuite... elle épluchait et elle faisait ça toute la journée. Et dans son appartement, il y avait des corbeilles d'ail partout. Sur le micro-balcon tout pourri, il y avait des corbeilles d'ail partout qui allaient ensuite dans les restaurants de Chichtaouk. Ça, c'est des souvenirs. C'est des souvenirs. Moi, là, j'arrive pas à en rigoler. J'arrive pas à trouver quelque chose de bien et tout. J'allais dire à la fois la chance et la malchance de rencontrer ces femmes parce que on n'en rencontre pas tous les jours. Et la deuxième qui m'a beaucoup marquée, c'est dans l'autre quartier. Elle avait été quittée par son mari. Elle avait perdu une de ses filles jumelles qui était asthmatique. Mais on ne s'étonne pas hein, que les enfants ils meurent comme ça, parce que quand vous habitez dans un sous-sol, un entresol avec des soupiraux défoncés, il peut faire froid aussi au Liban. L'hiver, il fait froid et un sous-sol, c'est humide. Et que vous avez des enfants asthmatiques, bah, c'est un peu difficile de les soigner. Et donc, quand on y était, la deuxième petite fille, une adolescente plutôt, elle était depuis 3 semaines dans un lit brûlante de fièvre. La maman n'avait pas l'argent pour acheter les médicaments. Et là, elle s'est écroulée, quoi. Elle s'est écroulée. J'étais avec une amie libanaise. Elle s'est écroulée dans nos bras. Elle pleurait. Elle s'appelle Hillel. Et quand on est sorti, moi, j'en suis encore émue hein, quand j'en parle, parce que c'est des trucs un peu... un peu dur. Et quand on est sorti, en fait, elle nous a remercié pour le colis de nourriture en disant « Mais vous savez, il y a encore pire que moi. » Et là, je me suis dit « Ouais, sans doute, on peut toujours imaginer qu'il y a pire. Je sais qu'il y a une femme qui vit dans un trou dans la terre, hein, pas très loin, j'ai pas pu aller la voir. Et » Et malgré ça, et c'est la photo que j'ai faite, j'ai plein de photos de la détresse de Hillel, mais quand on est sorti, elle a juste eu un énorme sourire. Elle avait elle aussi un t-shirt bleu avec marqué Love, décidément j'y suis abonnée. Et là, cette espèce de geste de la main, bah, la photo, elle est exposée je ne sais plus où ici, je sais qu'elle est à Die évidemment, je crois que c'est un air de famille. Et cette photo, et on voit le sourire de Hillel avec ce mur qui est défoncé de balles quoi, derrière. Donc tout ça, c'est des rencontres qui font à la fois froid et chaud au cœur, mais c'est des trucs inoubliables. Et moi, je voudrais, enfin, j'aime bien dans les photos qu'on se dise, mince, on rend hommage à des nanas courageuses. Il y a des hommes aussi qui sont courageux, hein, mais à des nanas qui se bagarrent, mais comme des malades pour leur famille, et puis qui sont quasi oubliées de tout le monde, quoi.
Si on ne vous a pas à côté pour faire le tour de l'exposition, est-ce qu'on perçoit ça dans
les bases ? Je l'espère. Alors moi, je fais
forcément pas toute l'histoire qui va avec.
Non. Alors le truc que je fais, parce que c'est un peu mon principe, c'est que chaque photo, qu'elle soit petite ou grande, j'ai ce que j'appelle une petite fiche à côté. Alors des fois, on dit oui, les photos, ça doit suffire tout seul, etc. Ben moi, je trouve pas, parce qu'il y a toujours quelque chose de plus à raconter, comment la photo a été faite. Donc en fait, moi, j'ai un principe, je mets des fiches, hein, un coup de pâte à fixe à côté pour dire où ça a été fait, à quel moment. Comment elle s'appelle la photo ? Certaines ont des titres, certaines n'en ont pas. Il y a des mots qui s'imposent. Et puis, en 10 lignes maximum, je remets dans le contexte cette photo. Parce que c'est l'histoire des gens, quoi. Et c'est vrai que moi, je ne suis pas une grande photographe. Hein, je ne me considère absolument pas comme une artiste. Du tout, du tout. Je suis, témoine. Je suis témoin en photo et de ce qui se passe, ce qui peut se passer dans la vie d'un être humain. J'espère que mes photos, elles ont de la force. Je pense qu'elles en ont pour certaines. Mais je pense qu'on peut des fois encore aller un petit peu plus loin en racontant les à côté. Si je ne vous raconte pas l'histoire totale de Hillel, il vous manquera des trucs.
Et il y a autre chose qui m'a frappé dans ce que vous veniez de dire à l'instant. Deux visites successives dans les mêmes quartiers, au même endroit. À un moment d'abord où c'était complètement en guerre, à un moment où a priori ça ne l'est plus, puisque c'est protégé par les... Mais il y a plus de détresse au moment où il n'y a plus de guerre,
elle
est plus visible, ou alors du coup vous étiez dans une situation à rencontrer ces gens.
Ouais, je pense que...
Et pourquoi vous ne les avez pas vus la première fois alors ?
Je ne les ai pas vus la première fois, tout simplement parce qu'on nous a demandé de partir du quartier, parce qu'il y a eu aussi un petit épisode, je ne peux pas tout dire, mais je me suis retrouvée nez à nez avec... Bon, j'étais toute seule hein, comme journaliste, il y avait Belle Lurette qu'ils n'avaient pas vu grand monde. Et je me suis retrouvée en fait face aux trafiquants d'armes qui faisaient rentrer les armes dans l'un des deux quartiers. Et voilà, et assez patibulaire, entourée de comparses patibulaires. Bon,
pas
moi j'étais accompagnée,
hein.
J'étais accompagnée oui, fort oui. Heureusement. Oui, oui, bien sûr, j'étais avec quatre personnes et puis notamment une personne qui fait un peu garde du corps sur les bords. Et en fait, ils nous ont laissé, c'est très étonnant parce qu'on aurait pu, enfin moi j'aurais pu être enquiquinée, hein, mais ils nous ont laissé quand ils ont su que je venais pas ni pour lui, enfin moi que j'étais vraiment là pour les gens, donc je pense que ça a été expliqué comme ça, j'étais un peu en retrait. Et voilà, et après quand l'armée est intervenue, ce gars-là était en fuite, bien entendu, après il a été condamné, il a été en prison et je crois qu'il vient de sortir maintenant. Donc voilà, on était sortis, on a bien fait de sortir parce qu'un quart d'heure après, coup de téléphone dans la voiture, vous êtes où ? Bah on est dehors, on est sur le port de Tripoli, assez bien parce que ça a recommencé à sniper. Donc bon, c'est pas la peine, moi je suis pas reporter de guerre, hein, du tout. Je serai la première à avoir la trouille de ma vie, hein, donc oui, je suis courageuse mais pas téméraire non plus. Et voilà, donc j'avais pas eu l'occasion non plus d'aller plus loin. Et cette fois-ci, la deuxième fois, le marché m'a paru très très loin des gens, quoi.
Qu'est-ce que vous donnez à voir de l'humanité un petit peu des gens qui sont là-bas et en même temps le paradoxe d'être dans une situation plus ou moins de guerre, mais en même temps d'être complètement heureux avec ses loves partout, tous ces trucs
Bah, c'est très curieux, c'est très curieux. Je ne saurais pas l'expliquer, j'ai l'impression que chaque fois qu'on peut apporter un petit quelque chose, bah, c'est une éclaircie dans leur vie. Hein. Voilà, c'est tout, apporter excusez-moi, apporter un colis, c'est assurer 8 jours de subsistance à une famille. Donc, vous vous rendez compte, 8 jours, c'est important. Pour nous, c'est peut-être 2 jours avec ce qu'on consomme, ce qu'on peut gâcher, ce qu'on peut mettre à la poubelle. Enfin bon, là, c'est 8 jours. Donc, il y a un sourire quand même, parce qu'il y a quelque chose qui arrive. Mais et puis parce qu'ils sont très dignes, ces gens-là, hein. Ils sont pas là en train de s'étaler, de chouiner, de pleurer, etc. Ils sont très dignes. Et je les admire aussi beaucoup pour ça, même s'il y en a qui craquent et ils ont toutes les raisons de craquer. Ils restent, ce sont des gens d'une dignité assez bouleversante pour ceux que je connais. Hein. Je dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais pour ceux que je connais. Et moi, ils m'apportent aussi... Je peux pas prendre leur misère, c'est pas ça, hein. Je suis pas du tout là pour prendre leur misère et la trimballer sur mon dos comme une tortue, hein. C'est pas ça du tout. Mais ils m'apportent un autre regard, ils m'apportent ouais, du recul. Ça, je crois que c'est très important. Depuis que je fais ce genre de photos, c'est du recul et puis peut-être des opinions un peu plus tranchées sur certains sujets aussi. C'est-à-dire que voilà, il y a des questions quand on se bagarre un peu sur les migrants ici, ça me fait un peu marrer parce que non, mais il faut dire les choses. On en a 10 ou 15 000, je sais pas combien. Le Liban, 4 millions d'habitants, 2 millions de réfugiés. C'est exactement comme si en France, on avait 33 millions de réfugiés. Donc, il y a un moment, il faut remettre aussi les choses dans l'ordre. En Jordanie, ils sont 1,5 million, ils sont 2 millions en Turquie. Et le Liban, c'est le plus petit pays au niveau de la population. Bah voilà, ça fait combien? Ça fait un bon tiers de la population qui a été accueillie, qui continue d'être accueillie. Alors, il y a des moments où je me dis que mince, quoi, on peut peut-être trouver des solutions et on n'est pas dans cette situation-là, quoi.
Avec d'ailleurs une capacité économique beaucoup moins évidente que nous pour accueillir...
Et puis c'est surtout que ça entraîne de gros problèmes parce que les réfugiés syriens qui sont au Liban, pensez bien qu'ils veulent travailler hein, aussi comme tout le monde. Et donc certains Libanais perdent leur emploi parce que les réfugiés syriens sont payés moins cher. Voilà, c'est comme ça un petit peu partout. Donc, ça crée des problèmes économiques au Liban. Ça en crée vraiment. Puis ça crée des tensions. Ah, bah ouais, c'est normal. C'est normal. Alors, moi, je ne me mêlerai pas de parler de politique au Liban parce que c'est trop compliqué. J'y comprends rien. Voilà, mais économiquement, c'est sûr que c'est un poids. Imaginez aussi le fait d'intégrer 700 000 enfants à l'école. Je crois que c'est 700 000 hein, dans les écoles publiques libanaises. J'espère ne pas me tromper sur le chiffre. Mais comment vous faites, vous, pour intégrer tous ces enfants et que tous ces enfants aient accès à l'éducation? Eh bien, maintenant, les petits Libanais vont souvent à l'école le matin. Il y a des écoles pour les Syriens l'après-midi. Mais vous imaginez l'argent qu'il faut pour accueillir tout ce monde-là, pour donner de l'éducation à ses enfants. Si on ne leur donne pas d'éducation, c'est quoi demain? On fera encore une nouvelle génération de terroristes? Et ça, alors là, au niveau international, il y a des choses de fait. On ne peut pas dire que rien n'est fait. Mais qu'on regarde un petit peu quand même les conséquences de ce qu'on ne fait pas. Des décisions que l'on ne prend pas. C'est dramatique. Ces enfants, il faut qu'ils aient accès à l'école. Alors, il y a plein d'associations qui se bagarrent. Il y a des écoles qui ont été créées. Il y a des trucs qui sont organisés pour accueillir ces enfants. Mais bon sang, ça devrait être une priorité, quoi.
Oui, et nous, ce qu'on aime bien faire, par exemple, en France, c'est mettre les gens dans les ghettos, hein, dans les coins.
Voilà,
et après, on se plaint.
Ça va moins bien marcher, hein. Ça, c'est sûr. Ça a déjà été prouvé. Hein. Alors maintenant, bon, moi, je respecte les opinions de tout le monde. J'ai pas de souci par rapport à ça. Chacun peut penser ce qu'il veut. Mais il faut quand même regarder un peu ce qui se passe ailleurs, ouvrir un petit peu ses oreilles, son esprit. Je dis pas que j'ai la science infuse non plus du tout, mais pour être allé sur le terrain et pour connaître les problèmes, les problématiques et les enjeux, il y a des réactions qui me laissent un peu baba, moi, ici, qui m'énervent même, quoi. Voilà.
Et le message est passé.
Bah oui, oui, j'ai passé.
Isabelle Morand, avec nous pour parler un petit peu de votre venue dans le cadre du Festival Est-Ouest, le Liban en invité, sur le Liban aussi, plus particulièrement ici sur Erdiwa. Vous avez rencontré aussi des combattants, vous avez tenté... de faire passer des messages sur le terrain
Non, absolument pas. En revanche, j'allais dire que les combattants, on les rencontre aujourd'hui parce que ce sont encore les combattants d'hier. Bon. Voilà, donc on peut parler de tas de choses, mais alors ça c'est vraiment un sujet, c'est très compliqué la politique libanaise, le terrain libanais est très compliqué et je ne suis pas libanaise, donc il y a des choses que je ne permettrai certainement pas de dire à un micro. Et quand parce que je pourrais dire d'énormes bêtises.
Bon, très bien. Mais quand, par exemple, une photo reçoit le prix de la diaspora libanaise, qui le donne qui,
c'est, alors, c'est, donné un, par qui, ça c'est un jury.
Oui, mais voilà, libanais.
Ah oui, oui, c'est un jury
de la du ministère de la Culture libanaise.
Non, c'était pas du ministère de la Culture. Je crois que c'était des une association française ou deux, trois associations françaises. Je pourrais plus vous dire lesquelles exactement. Non, 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 c'était dans le cadre d'un événement culturel qui a eu lieu à l'UNESCO.
Voilà, le Liban n'a pas de regard, ou vous n'avez pas entendu voilà, une perception que pourrait avoir la politique libanaise ou je sais pas. Bah, qui d'autre au Liban sur votre travail ?
Non, moi j'ai des amis là-bas, je ne fréquente pas les milieux politiques. J'ai des amis dans tous les coins, j'ai des amis de toutes les confessions, j'ai des amis dans toutes les situations. Et voilà, ils ont chacun leur regard sur mes photos, c'est une chose. Et deux, ils ont bien sûr des opinions très tranchées sur la question. Bon, moi je fais partie d'un groupe, mais que je n'anime pas du tout, mais je suis de près les mouvements citoyens, ce qu'ils font, etc. Parce qu'il y a quand même une énorme crise des déchets en ce moment, c'est gravissime. Et je suis beaucoup la Troisième Voie, qui est une organisation apolitique, qui essaye de vraiment de se bagarrer pour la paix. Se bagarrer pour la paix, c'est pas très très joli de dire ça comme ça, ouais. Qui d'œuvrer pour la paix et qui est un mouvement citoyen et qui se bagarre pour certaines réformes, réformes du code de la famille, réformes de tas de choses, et pour faire avancer un état de paix, parce que la paix, c'est quand même assez précaire là-bas.
Le Liban se situe comment par rapport à la culture venant d'ailleurs ou à sa propre culture ? Est-ce que c'est plutôt ouvert ?
Ah oui, c'est complètement ouvert. Ouais. Oui, c'est complètement ouvert. Beyrouth, c'est une ville d'art incroyable. Il se passe des choses tout le temps. Et il faut savoir qu'il y a un festival, c'est un festival du livre francophone là, qui va avoir lieu d'ici un mois. C'est un festival qui existe depuis de nombreuses années. Et là, ça brasse plein de gens. Il y a beaucoup d'auteurs français qui vont à Beyrouth pour ce festival, Festival du livre francophone. Et oui, ce sont des gens curieux, ce sont des gens qui... Alors, il y a beaucoup de francophones encore, mais de moins en moins. Il y a énormément de galeries, il y a beaucoup d'artistes qui s'expriment au Liban, beaucoup, beaucoup. Il y en a beaucoup qui vont aussi s'exprimer ailleurs, hein, qui sortent de Beyrouth, qui vont ailleurs. Et et ils sont très... très réceptif à tous les arts.
Et il n'y a pas de blocage pour eux, pas de censure. Tout va bien.
Non, il n'y a pas de censure. Ouais. Non, non. Moi, j'ai un seul exemple de censure, mais alors vraiment, c'est un truc à part. J'ai une amie qui est photographe, qui est tripolitaine et qui a le courage de photographier des personnes nues. Ah. Alors, être une femme photographe, c'est déjà pas simple. Dans une ville quand même à majorité musulmane, c'est pas toujours facile. Et de photographier du nu, faut être gonflé, quoi. Et
féminin ou masculin, ou les deux ?
Les deux, les deux, ouais. Absolument. Donc, c'est... Alors, la censure, elle ne s'auto-censure pas. Je pense qu'il y a des gens qui ne prennent pas ses œuvres parce que... Mais il y a des gens qui s'expriment de tas de façons. Hein. Il y a du street art aussi, il y a des tas de choses. Il y a des peintres, il y a des écrivains. Et puis, on les retrouve un peu partout, parce que la diaspora, elle est en France, au Canada, en Australie. Donc voilà, il y a des gens qui apportent plein de choses d'ailleurs, et on envoie aussi de Beyrouth beaucoup de choses ailleurs.
Isabelle Morand, photographe, est-ce qu'on peut parler un petit peu de votre technique ? Pas du tout.
Ah, pas du tout. Moi, je suis nulle en technique.
Alors, c'est quoi comme appareil ?
Moi, je travaille avec un Lumix Panasonic, un GH4, parce qu'il filme également et qu'il filme très bien et que je fais beaucoup de films. Et donc, cet appareil... Alors, j'avais le GH1, on va le dire, de la première génération, Lumix aussi. Là, je suis passée au GH4 qui filme aussi bien qu'il photographie. Mais souvent quand je suis dans la rue en train de faire des photos, je n'ai pas assez de technique pour me passer de l'automatique. Donc des fois je débraye et je passe en manuel. Mais souvent les situations font que si j'ai pas assez la technique pour débrayer et me mettre en manuel, et je sais que je vais rater la photo. Je sais que je vais la rater. Alors, autant en vidéo, je travaille vraiment différemment, quoi. Je suis en automatique un peu quand les circonstances l'exigent, mais sinon j'aime bien faire ma lumière, j'aime bien faire mon point, j'aime bien voir un point très fin, etc. Mais en photo, je me pose pas la question parce que je veux pas me poser la question de la technique. Je ne suis pas une technicienne, moi. Je suis quelqu'un qui vient de l'écrit et de la radio, donc la technique, j'en manque un peu, j'en manque même beaucoup. Ce qui m'intéresse surtout, c'est d'être prête et de pouvoir saisir les instants.
Ouais, et pas le rater, quoi.
Surtout pas rater.
Si on
ce
a la
qu'on
technique...
me donne, ce qu'on ouais. me donne, voilà. Et j'ai un mari qui est rigolo parce que quand il voit mes photos, il me dit et qu'il me voit travailler sur le terrain, il me dit toujours on te donne autant que tu donnes. Et c'est ça que je trouve intéressant. Et s'il faut que je rate un truc parce que techniquement, je fais un peu ma bille sur ce coup-là, je m'en voudrais quoi. Je m'en voudrais d'avoir de pas avoir, c'est pas rater la photo, c'est d'avoir raté l'instant.
C'est ça, si on maîtrise cette technique, on peut aller très très vite aussi, ne pas rater l'instant pour autant.
Mais ah voilà, mais moi d'accord. Je ne suis pas photographe de formation, hein. J'ai un œil de photographe parce que pendant 20 ans, j'ai choisi des photos dans les magazines où j'étais, j'ai vu des dizaines de milliers de photos et j'ai développé un œil. Mais la technique, alors là, c'est pas moi qui vous parlerai de technique parce que j'aime bien quand ça marche en plus, quoi. Alors des fois, quand ça marche pas, ça m'énerve.
Les photos sont pas retouchées, alors pas de retravail après non plus?
Non, il n'y a pas de Photoshop, il n'y a rien. Je peux monter les couleurs. Voilà, éventuellement si j'étais dans une situation un peu sombre, si ça manque un peu de lumière, de quelque chose pour l'impression, mais non, mais moi je retouche jamais mes photos, jamais, jamais, jamais. Elles sont dans leur jus, et puis soit ça plaît, soit ça plaît pas.
Alors c'est quoi votre œil de photographe ?
Ah, je fais beaucoup de décadrage, c'est assez curieux, mais ça vient de la vidéo. En fait, j'ai rarement des personnages plein pot au centre et tout, j'ai horreur. J'aime pas tellement quand les gens sont au centre des photos. J'aime beaucoup les personnages décadrés. Donc ils sont soit à gauche, soit à droite. J'aime beaucoup aussi quand les regards se croisent. Et avoir toujours un petit environnement, avoir le petit quelque chose en plus dans la photo et pas seulement du portrait. N'importe qui peut en faire des portraits. C'est vraiment avoir le contexte autour, essayer de choper un peu l'ambiance. Et c'est toujours donc des personnages décadrés, comme en vidéo.
C'est presque un peu quand même de la photographie de paysage finalement, l'objet dans son milieu.
Alors effectivement, sauf que quand je fais du paysage, à part un ou deux trucs, c'est généralement moyen, on va dire. Non, voilà, y a qu'une photo dont je suis très contente, c'est les cèdres de Dieu. J'étais partie 3 jours en Vallée Sainte pour rencontrer un ermite, qui d'ailleurs est un air de famille aussi, Dario. Et puis un petit matin, on est passé... à Pcharé, donc dans le haut de la Vallée Sainte, dans le bosquet des Cèdres de Dieu. Et là, il y a des instants magiques, hein, comme ça, quand on voyage, le ciel, il est bleu, il n'y a pas un nuage. Il y a cette espèce de cèdre retravaillé en statue. Les cèdres à côté sont impressionnants, bien verts, tout sage, il n'y a pas de vent. Et là, vous faites clic, 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 hein, ça y va. Et jusqu'au moment où c'est bon, quoi. Où c'est bon, où vous l'avez, cette bonne sens de photo. Puis oui, il bouge pas, c'est plus pratique.
Oui. Le cèdre.
Ah, le cèdre,
l'ermite
il est
bouge pas non plus en général.
Ah, l'ermite avait un air très malicieux qu'il ne donnait pas tout le temps. Mais c'est un personnage haut en couleur. Hein. C'est un type, il est, je crois qu'il est colombien. Enfin, je crois qu'il est sud-américain, ça c'est sûr. Donc prêtre, et il est venu s'installer dans la Vallée Sainte il y a 15-20 ans. Et il y a deux ermites au Liban, dans la Vallée Sainte. Il y en a un qui est vraiment ermite à 300%, donc il ne voit personne. Et puis il y a Dario qui accepte les rencontres, voilà, qui aime bien aussi rencontrer des femmes. Il aime bien la compagnie féminine et il est drôle. Et il est à la fois drôle, touchant, c'est un monsieur qui a plus de 80 ans et qui vit, on avait dû faire 2 heures de marche hein, pour aller le voir dans son ermitage. Vraiment, c'est une célébrité au Liban, quoi. C'est une célébrité parce que c'est le bout d'une promenade. Est-ce qu'on va le voir? Est-ce qu'on va pas le voir? Et puis, il cultive encore, lui, son jardin. Donc, 2 terrasses plus bas avec des escaliers comme ça. Et enfin, moi, je rêvais de le rencontrer et j'y suis allée avec un frère pauliste, avec le père Marwan, Abouna Marwan, qui a pris 3 jours sur son temps pour m'emmener en Vallée Sainte, pour aller rencontrer Dario et qui m'a emmenée ensuite au Cèdre de Pcharé. Et après, nous sommes passés dans la Beka. Et parce que quelqu'un avait dû lui dire que mon rêve, c'était d'aller à Baalbek. Et on est passé dans la Beka et j'étais un peu perdue, moi, dans mes repères géographiques. Je me doutais qu'il y avait, que j'étais pas loin de la Beka, mais on a passé donc une chaîne de montagnes. Et après, je lui ai dit, mais on est où là? Il me dit, mais tu sais pas, revois ta géographie. Alors, j'ai revu ma géographie, je fais, la Beka? Et il m'a dit, oui, la Beka. Et on est allé dans la vallée de la Beka, donc on a traversé d'abord des villages chrétiens. On est arrivé à Baalbek, qui est une ville chiite. Et puis, il y a aussi un autre personnage qui est dans le coin qui s'appelle Monsieur Abdoul, un type incroyable, qui a sauvé la carrière romaine de Baalbek. Il l'a sauvé tout seul. C'est un ancien lieutenant de l'armée. Et dans cette carrière qui était envahie de détritus, où tout le monde venait jeter tout son bazar, quoi, tous ses déchets, il a commencé à faire campagne pour dire on ne salit pas un site comme ça. Donc il nettoyait, il y en a qui remettaient, il nettoyait, nanana, jusqu'au moment où la Concorde s'est faite et où on l'a laissé, on lui a donné le droit d'utiliser, enfin, pas d'exploiter, on n'exploite pas une carrière, mais de mettre à jour ce qu'il y avait dedans, de protéger, de sauvegarder, tout à fait. Et en fait, on a dégagé dans cette carrière la plus grande pierre taillée du monde. Elle est à Baalbek.
Ça valait le coup. Ouais.
Voilà, quand vous êtes à côté, vous avez l'impression d'être un Lego. Et encore, je ne sais pas si Lego, Playmobil, Duplo, ce que vous voulez. On est tout petit. Et puis à côté, a été dégagé il n'y a pas très longtemps le départ de celle qui aurait dû être la deuxième plus grosse pierre taillée du monde. Bon là, elle a juste été taillée sur le dessus. Ce sont des pierres qui étaient donc destinées aux enceintes de Baalbek, de tout le site antique de Baalbek. Et là, c'est juste... Il n'y a personne sur le site, hein, parce que personne n'y va. Enfin, je ne sais pas, il doit y avoir 20 touristes quand j'y étais. Bon, c'était au mois d'octobre aussi. Et là, c'est juste, vous êtes... je me dis... Baalbek a la chance d'être debout alors que Palmyre ne l'est plus parce que ce sont les mêmes c'est les mêmes époques, ou pas tout à fait, mais ce sont des mêmes trésors, quoi. Il y en a un qui est debout et il y a l'autre qui est en partie par terre, quoi. Et Baalbek, c'est extrêmement beau, c'est extrêmement émouvant. On se demande comment ils ont fait pour construire, un peu comme les pyramides, comme tous les grands monuments, on se demande comment ils ont fait pour trimballer ces pierres. Elles n'étaient pas très loin, hein. Elles sont dans cette carrière où maintenant tout le monde peut aller, où Monsieur Abdoul, pour moi, c'est vraiment c'est un sauveur de patrimoine de l'humanité, ce monsieur. Et où que vous achetiez ou que vous achetiez pas, vous avez votre petit thé, voilà, il vous raconte l'histoire. Et puis, généralement, les gens achètent, font un don, etc. Parce qu'il est là, il vit que de ça.
On voyage avec Isabelle Morand un petit peu. Moi, je bois vos paroles, tiens. Est-ce qu'on pourrait vous demander votre photo préférée? Ça se fait, ça?
Dans celle que j'ai faite?
Ouais, toute votre carrière.
Oh là!
Même si c'est une photo de fleurs, hein, pourquoi pas?
Non, non, ce ne sera pas une photo de fleurs. Non, non. J'ai droit à deux.
Allez.
Ouais, non, mais le problème, c'est que je vais en dire 30. Non, il y en a une que j'aime particulièrement, que j'ai faite en Algérie. Du côté de Siga, où il y a des ruines romaines par là, donc c'est dans l'Oranais, hein. C'est assez proche de la frontière avec le Maroc, et c'est la photo d'une vieille dame. D'ailleurs, elle a fait, j'ai fait deux expos où c'était la photo de cette affiche là parce que pour moi elle symbolise presque tous mes ailleurs. C'est une femme, elle est vieille. J'adore photographier les visages creusés, ridés. C'est soit les enfants, soit les vieilles personnes. Et elle est juste belle. Je ne sais pas comment dire. Cette femme, je l'ai vue, elle était dans un champ avec ses moutons. Et j'étais avec son fils qui est archéologue. Et je l'ai vue au loin. Et on voyait un petit bout de bonne femme très colorée dans cette campagne. C'était au printemps, donc il y avait du jaune, il y avait du colza, il y avait de la moutarde, il y avait des tas de trucs. C'était très jaune. Elle était bariolée de partout. Et puis on s'est approché et elle était haute, mais toute petite, vraiment haute comme trois pommes, un visage très très ridé. Je serais incapable de donner son âge, je ne sais pas, à mon avis plus de 80, avec des tatouages berbères. Et puis elle était juste là avec un sourire incroyable. Et c'est comme une grand-mère qui va vous prendre comme ça dans les bras juste pour faire un câlin. D'ailleurs, ça s'est terminé comme ça parce que c'est une femme qui appelait les câlins et qui donnait des câlins et qui en faisait. Et j'ai fait pas mal de photos d'elle. Hein. Je suis restée un petit peu de temps avec elle. Mais il y en a une où, là c'est pareil, un regard tout droit, décadré, donc sur la droite, avec donc un peu de cette campagne oranaise derrière. Et là, c'était juste, pour moi, c'était un instant magique. Voilà, c'était un peu une grand-mère universelle, quoi.
Et la pire photo que vous exposez encore ?
Ah, ouais, sans doute. Je sais pas, parce que comme j'ai amené que celle du Liban, celle dont j'aurais honte. Non, je les expose pas, celle dont j'ai honte.
Ah, non, mais il y en a forcément une qu'on met quand même. On se dit, mais enfin bon, celle-là, enfin je la mets pour le geste ou pour le. Non.
Ah alors pas faux. Alors c'est pas une. Faut pas dire que j'en ai honte du tout. C'est qu'en fait, c'est une photo que j'aime bien, mais je vois absolument pas l'intérêt qu'elle a pour les gens. Mais absolument pas, parce que c'est un truc qui me parle. C'est une photo qui a été faite au Liban, qui s'appelle La famille du poissonnier. Et c'est un monsieur qui était en train de nettoyer des cahiers des poissons, comme ça, sur le marché. Je trouvais qu'il avait une bonne bouille, il était un petit peu rugueux, un petit peu comme ça. Et donc, on s'est salué, voilà, on a discuté 3 secondes, parce qu'on n'avait pas grand-chose à se dire non plus. Et puis, en fait, quand je suis revenue, plusieurs heures après, sur mes pas, je suis retombée sur ce monsieur, et qui a absolument tenu à ce que je lui fasse une photo avec ses enfants. Donc, il y en a un là, il y en a un là, il y en a un petit par terre.
Tout le monde pose.
Tout le monde pose. C'est une photo très posée. C'est une photo de famille. À chaque fois, je me dis, mais pourquoi je l'ai faite tirer ? Je sais pas. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'elle dit pas grand chose à grand monde. C'est une photo de famille lambda. Là, pour le coup, il n'y a pas de décor. Elle est plein pot. Mais quelque part, je l'aime bien aussi parce que, en fait, ces photos que j'ai faites, je les ai faites retirer aussi. Et quand je suis retournée au Liban, je les ai données pour qu'elles soient données. Parce que c'est des gens qui n'ont pas beaucoup de sous, c'est pas demain qu'ils vont avoir des photos comme ça.
Donc il a eu sa photo.
J'espère qu'il a eu sa photo, parce qu'on en a donné 2-3 en direct. Et après, moi je devais m'en aller en Vallée-Sainte. Et donc j'ai donné une enveloppe à quelqu'un de confiance et qui était chargé de les donner aux uns et aux autres. Donc je me dis peut-être que le poissonnier, il a eu sa photo. Mais je pense qu'il l'a eu, je pense que c'est passé de main en main.
Et ça, donc oui, le public l'apprécie quand même.
Non, je crois pas. Non, j'ai l'impression que c'est pas une photo. Non, je pense pas que ce soit la meilleure que j'ai faite non plus. Hein.
Ouais,
donc,
elle est complètement hors contexte par rapport
elle
à
est
votre
hors
travail.
Contexte voilà, par rapport au reste. Alors pourquoi je la trimballe ? Je ne sais pas, parce que ça me rappelle sans doute un bon moment aussi. C'était pas un mauvais moment. Mais je pense qu'elle a pas d'intérêt photographique, elle a pas de décor. Voilà, je sais pas pourquoi, mais vous avez raison, c'est vrai qu'il y en a une, on se demande ce qu'elle fait là. Je suis très honnête.
Ben voilà. J'aurais fait un peu le psy quand même. Isabelle Morand, sur le festival Est-Ouest, alors on a entendu un air de famille, les photos sont un peu partout. En fait.
Alors voilà, il y en a pas mal à un air de famille, donc il faut y aller avant 15h parce que sinon après le restaurant est fermé, si j'ai bien compris. Puis il y a des jours de fermeture, mais je ne m'en rappelle plus. Il y a le Café des Lys aussi. Donc voilà, il y a la photo que j'aime beaucoup du petit garçon à l'orange, voilà, qui est un petit réfugié syrien dans une orangerie, dans un verger. Voilà, alors il y a plusieurs personnes qui m'ont dit lors d'une première exposition « Ah, mais il est sale !» Je dis « Bah ouais, il est sale, et alors ?»« Bah, il est sale. » »« Bah ouais, c'est un gamin, il est sale. » D'abord, un gamin, ça joue, ça se roule dans la poussière. Et puis voilà, puis c'est un gosse, mince. Donc, c'est là aussi, dans le Café des Lys, que j'ai mis la femme à l'ail et Hillel. Je crois que Ah non, j'ai mis aussi une vieille dame, j'ai mis Hadjé. Hadjé, ça veut dire la femme qui a fait le pèlerinage. Donc, c'est Hadjé. Et Hadjé, c'est une dame que j'ai rencontrée, je l'ai vue de loin. Toute vêtue de noir, hein, mais de noir, devant un portail vert d'eau. Je me suis dit, bah ça alors. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu un coup de cœur sans la voir, hein, elle était de dos. Et puis j'ai dit, allez, je m'arrête, on va aller taper la discute 5 minutes. Je voulais voir sa tête. Et c'est une vieille dame très ridée, très ronde et tout. Donc forcément, c'est au Liban, donc on a été invité à aller boire un thé, un café, je ne sais plus. Et puis là, c'est aussi la tradition libanaise, c'est qu'un café, ça ne s'arrête pas là, c'est qu'on vous sort absolument tout ce qu'il y a à manger dans la maison. Donc c'est là où j'ai mangé la meilleure gelée de pommes de toute ma vie. J'ai jamais mangé une gelée de pommes comme ça. Et à un moment, je me suis dit, mais c'est la même femme que j'ai vue, parce qu'en fait, elle était chez elle, Hadjé, et elle avait donc enlevé son voile. Le visage avait complètement changé. Ouais. C'était, voilà, hein, j'ai vu dehors, son visage était complètement cerné, elle était voilée, chez elle était dévoilée. C'était un changement total et je l'ai faite en photo, dévoilée, des yeux magnifiques, un port de tête altier, des expressions pareilles de grand-mère à tout le monde. Et en fait, j'ai juste avant de partir, je me suis dit, oula, qu'est-ce que je vais faire là ? Donc je lui ai dit, est-ce que je peux utiliser ces photos de toi dévoilées ? Et elle m'a dit, ah non. Pas dévoilé.
Ben non. Eh ouais.
Non, mais
Mais elles ont été faites quand
elles
même.
Ont été faites, et ça, c'est moi qui les ai, et je sais comment est Hadjé dans son intimité. Mais la photo que j'ai faite tirer est celle de Hadjé. Et d'ailleurs, c'est quand je l'ai vue, c'est quand je l'ai découverte. Donc, c'est aussi pour ça que je l'ai aimée. C'est pas forcément sans son voile.
Des petits cadeaux comme ça. On arrive sur le terme de cette interview, et c'était très bien. Beau portrait, merci Isabelle Moreau.
Maintenant, c'est moi qui vous remercie, puis je parle beaucoup en plus. Hein.
C'est parfait, c'est parfait. Après le Festival Est-Ouest, c'est où qu'on trouve votre travail? En deux mots, super rapide.
Je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que là, j'ai beaucoup de travail sur la vidéo, j'ai beaucoup de choses à faire, mais je repars en Irak au printemps prochain, donc je pense faire une exposition plutôt sur l'Irak, parce que j'ai des magnifiques photos là, vraiment dans des camps de réfugiés, des beaux portraits de gens, que des portraits. Et j'ai regardé mon travail il y a très peu de temps, et je me suis dit que là, il y avait une expo.
C'est vous qui proposez les expos ou on peut aller vous chercher?
Ah non, mais moi, je propose, on va me chercher, ça marche dans tous les sens. Hein.
Alors, on vous trouve où?
Sur www.isabellemorand.com.
Merci Isabelle.
Je mets pas mon portable hein, quand même, ça se fait pas. Je donne pas mon 06.
Interview.
Okay, the bird.